C'est votre émission Regard sur le monde en compagnie de Diane Felice et Michel Poulain. Diane, nos invités aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Mme Karine Lavallée, qui est directrice générale du regroupement des associations pour personnes handicapées visuelles de l'Abitibi-Témiscamingue. Et nous avons également l'honneur de recevoir M. Stéphane Lambert, qui est président du conseil d'administration de la Fondation de l'école Jacques-Ouellette de Longueuil.
Regard sur le monde sur Canal M, une émission qui se veut fédérative de tout ce qui se passe en déficience visuelle au Québec et même de par le monde. Et nous avons le grand bonheur d'avoir au bout du fil, dans une région absolument magnifique, l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Karine Lavallée, qui est directrice générale du regroupement des associations pour personnes handicapées visuelles de ce beau coin de pays. Bonjour, madame.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Il fait beau chez vous?
Ah, il fait beau. C'est toujours beau en Abitibi.
Merci beaucoup de vous joindre à nous pour notre édition d'aujourd'hui. D'abord, quel est le rôle et la mission du regroupement des associations pour personnes handicapées visuelles de l'Abitibi-Témiscamingue?
En fait, le regroupement d'associations de personnes handicapées regroupe là toutes sortes d'organismes, non pas seulement des organismes qui offrent des services aux personnes handicapées visuelles, mais bien toutes sortes d'organismes. Donc, par exemple, handicap physique, intellectuel, visuel, auditif, trouble du spectre de l'autisme, ça inclut tout ce beau monde-là. Le regroupement est né là, en 1981, puisqu'il y avait plusieurs personnes à la tête d'organismes ici qui trouvaient un petit peu difficile le fait d'être en région éloignée, hein, de collaborer avec les autres organisations. C'était difficile. Donc, lui, ce qu'ils souhaitaient, c'est d'avoir un organisme qui ferait le rôle de pivot, si on veut, entre les autres organismes d'ici, les organismes de l'extérieur, transférer l'information. De là est né le RAFAT, le 17 novembre 81, bien exactement. Donc, l'organisme a fêté le sous peu ses 37 ans d'existence.
La défense des droits des personnes handicapées visuelles, c'est pas une mince tâche. Donc, ça peut représenter combien de votre temps, en fait, ou par rapport à vos mandats?
Bien, en fait, le RAFAT, vraiment, la base de la mission du RAFAT est vraiment, le RAFAT, je vous le nomme comme ça, hein, puisque le nom est très long, le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est sûr que la défense collective des droits est une très, très grosse partie de notre mandat. C'est ce pour quoi on est financé. Donc, c'est sûr qu'on travaille très fort là-dessus. La défense collective des droits, effectivement, c'est très large, hein, ça englobe toute action posée en vue de faire valoir les droits des personnes, ce qui implique qu'elles aient accès là, à des services de qualité puis qu'elles soient reconnues au même titre que les autres citoyens. Donc, évidemment, quand on entend défense collective des droits, on pense tout de suite à manifestation. Effectivement, là, on prend part à des actions de revendication, des manifestations où on sort dans la rue pour manifester notre désaccord avec certaines décisions, pour faire du bruit. Par contre, Ce petit bout-là, là, la manifestation, là, il s'agit d'une vraiment mince partie de nos actions en défense collective des droits, parce que c'est pas nécessairement la plus efficace. Nous, ce qu'on opte plus, c'est pour des rencontres avec les députés, les gens d'influence, pour leur présenter nos plateformes de revendication, leur demander de se positionner sur les engagements qu'ils sont prêts à prendre pour nous supporter. C'est aussi de prendre part à plusieurs comités, étapes de travail, que ce soit régional ou local, dont les travaux sont vraiment orientés vers l'amélioration des conditions de vie et l'inclusion sociale des personnes handicapées. Par exemple, la table régionale en emploi, la table régionale en service de garde, aussi le comité régional en activité de jour qui permet d'améliorer les conditions de vie des personnes âgés de 21 ans et plus, qui ne peuvent plus fréquenter les établissements d'enseignement. Donc, eux se retrouvent là avec plus nécessairement d'activités à faire le jour. Donc, les centres de jour les accueillent chez eux pour faire des activités. On a aussi la Coalition Équité Santé Services Sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue qui agit à titre de vigie pour identifier les situations qui nous semblent questionnables dans le réseau de la santé des services sociaux. Donc, tout ça, c'est des comités, des endroits où le RAFAT collabore en défense collective des droits, en fait.
Est-ce que vous constatez des avancées dans votre région suite à toutes ces démarches?
Oui, je vous dirais que au communautaire, on a la tendance à être très positif. Donc, quand on voit une petite avancée, là, on s'en rend compte. C'est sûr que ça avance très lentement, mais ça bouge, ça bouge. Vous voyez, au niveau là, du financement aux organismes communautaires, qui est vraiment le cheval de bataille là, de plusieurs, qui n'avait pas été indexé au coût de la vie depuis maintenant 2001, bien, dernièrement, là, au cours des dernières semaines, on a reçu deux légères augmentations qui nous ont été accordées pour, en fait, indexer là, nos revenus au coût de la vie. Donc, c'est toujours nettement insuffisant pour permettre aux organismes de sortir du climat là, de précarité dans lequel ils sont. Mais quand même, c'est une avancée qu'on pense qui est directement liée aux actions que nous, on a posées.
Quels sont les membres de votre regroupement? Il y a plusieurs organismes ou associations qui en font partie?
Oui, oui, effectivement. C'est sûr que si on compare le regroupement de l'Abitibi-Témiscamingue avec le regroupement du Centre du Québec ou de Montréal, c'est sûr que là, le nombre de groupes d'organismes qui en font partie est beaucoup moins impressionnant. Par contre, pour nous, on a 28 organismes membres qui proviennent un peu partout en Abitibi. Oui, on est bien contents du groupe. Chaque année, ça augmente. Chaque année, il y a de nouveaux organismes qui font leur apparition ou des organismes qui se joignent là, au regroupement puisqu'ils en voient les bienfaits. C'est sûr que, comme je disais tantôt, on a des organismes qui travaillent beaucoup au niveau de la déficience visuelle. Par contre, on en a d'autres qui travaillent au niveau là, des personnes handicapées au sens large, là, que ce soit déficience physique, intellectuelle, auditive, troubles du spectre de l'autisme. Si je vous fais un petit topo là, de ce que nos organismes offrent comme services, on en a certains qui offrent des services de répit dépannage et de gardiennage hein, pour les proches qui ont besoin là, de se préserver un petit peu. Donc, eux reçoivent là, les organismes la personne handicapée pour quelques heures jusqu'à quelques jours pour permettre là, à son proche de prendre un peu de temps pour lui. Et on a d'autres organismes qui offrent des camps de jour spécialisés pour les enfants et adultes avec des problématiques particulières, là, une situation de handicap qui ne permet pas nécessairement, vous savez, chaque municipalité offre un camp de jour estival pour recevoir les enfants là, pendant les vacances scolaires. Par contre, il y a de nos tout-petits qui ne sont pas nécessairement facilement intégrables à ces groupes-là, puisqu'ils ont des limitations fonctionnelles là, qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas participer. Donc, il y a des organismes qui offrent des camps de jour spécialisés pour ces tout-petits-là. Il y en a aussi qui offrent, comme je disais tantôt, des centres de jour pour adultes. Donc, c'est un endroit où la personne adulte, peu importe sa limitation fonctionnelle, peut se rendre pour faire des activités. Eux font des sorties, des activités plus ludiques, sportives, maintien des acquis. On a des organismes aussi qui ont pour mission d'offrir des appartements supervisés. Donc, pour les personnes dont le handicap, l'incapacité peut être un petit peu moins envahissante, puis qu'eux sont en mesure de vivre tout seuls, mais avec une certaine supervision, bien, on a des organismes qui offrent cette possibilité-là aux personnes handicapées. Il y a encore tout plein d'autres, d'autres choses qui sont offertes.
Ça bouge beaucoup en Abitibi-Témiscamingue.
Oui, nous, on en a plusieurs, oui, effectivement. Puis on touche à plein de sujets différents, si on veut, oui.
Il y a un grand dynamisme et on va faire une pause musicale, Mme Lavallée, et on est de retour avec vous tout de suite après.
Parfait, merci.
Toi qui es seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Dans ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le là, sur la table. Laisse passer, laisse passer. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps. l'arbitre le réglera. Ok. Ok. Bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête. Ah mais cela, faut pas les louper. Et toi, ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville. Prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer aux marins sur la mer, aux gars du village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là sur la table. Laisse crever, laisse crever. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera. Ok. Ok. Bien.
Nous sommes toujours en compagnie de Mme Karine Lavallée du regroupement des associations pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Mme Lavallée, cette chanson était pour vous parce qu'on vous envoie de l'amour et de l'amitié en Abitibi-Témiscamingue.
Mme Lavallée, vous avez 28 associations quand même qui sont membres de votre regroupement. Comment vous vous assurez de bien connaître les points sur lesquels ils ont besoin d'appui ou de représentation? Est-ce que vous avez un mécanisme particulier?
Bien, en fait, je vous dirais, le regroupement ici, la personne qui était à la direction du regroupement du RAFAT pour les 22 dernières années a toujours été la même. Elle a quitté l'an passé. Moi, je suis arrivée en septembre de l'année dernière, donc ça fait maintenant là, une année que je suis ici. Donc, c'est sûr que moi, en arrivant toute nouvelle, j'ai fait le tour des organismes avec qui on travaille. Hein. Donc, je me suis présentée, essayée de comprendre bien quels étaient les besoins de chacun. Donc, c'est sûr que avec mon arrivée, il y a eu une tournée pour me présenter dans le premier temps, mais aussi pour vérifier avec chaque organisme quelle est leur mission, quelles sont leurs problématiques là, avec lesquelles ils ont à travailler, qu'est-ce qui pourrait les aider, eux autres, à pouvoir appliquer leur mission le mieux possible. Donc, c'est vraiment cette façon-là que j'ai pu là, mettre en place les actions qui allaient être priorisé cette année. Par contre, chaque année, nos organismes sont toujours invités. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est une petite région. On se voit beaucoup. Donc, il est très facile là, de collaborer ensemble, de discuter, de se croiser dans une activité. Puis moi, j'entends, parce qu'il y a une grosse partie de notre plan d'action qui est vraiment réservée aux besoins spontanés des organismes. Donc, un organisme m'appelle, me mentionne une problématique X, ben moi, écoutez, mon travail, c'est vraiment de m'assurer qu'ils aient tous les outils pour passer à travers. Donc, souvent, c'est comme ça que c'est fait. Sinon, ben vraiment, là, chaque année, on fait une tournée de nos organismes pour vraiment valider quels sont leurs besoins.
Est-ce que vous constatez ou remarquez qu'il y a une trame de fond dans votre région ou... Des choses, des similarités d'un organisme à l'autre.
Ah ben oui, tout à fait. Au niveau des problématiques, si on veut, je ne veux pas nécessairement me centrer sur les problématiques, mais là où on nous demande d'intervenir, c'est beaucoup, beaucoup lié, premièrement, c'est sûr, au manque de financement. Ça, je pense que c'est partout au Québec. Mais aussi, ici, ce qui nous importe beaucoup, c'est le répit d'épanage. On a beaucoup de familles qui ont besoin des services de répit d'épanage. Par contre, on n'a pas beaucoup d'organismes qui l'offrent ou du moins les places sont limitées. Donc, c'est sûr que répit dépannage et activités de jour là, offertes aux personnes de 21 ans et plus sont deux gros dossiers qui reviennent puis qui sont vraiment des problématiques partagées par un petit peu tout le monde qui travaille auprès des personnes handicapées, autant visuelles là, que les autres types de handicap ici.
Vous êtes en poste maintenant depuis un an. Vous avez, je dis succédé plutôt que remplacé.
Oui. Hein?
Vous avez succédé à quelqu'un qui était là depuis quand même 22 ans. Quelles ont été vos motivations de prendre de relever ce défi?
Bien, vous voyez, souvent, moi, j'ai fait personnellement, j'ai fait le chemin inverse qu'on voit normalement. J'étais dans le réseau de la santé et services sociaux. Je suis quelqu'un de très coloré, qui avait peut-être un petit peu de difficulté à trouver sa place. Puis donc ici, j'ai fait le saut. Je suis arrivée, moi, au communautaire, un endroit où on peut donner de ses couleurs. T'sais, vous voyez, mon organisme ici, je dis mon organisme, qui n'est pas le mien, mais c'est un endroit vraiment là où je me sens vraiment très, très bien, où il y a la possibilité de partager plein de choses, de grandir, d'apprendre. Donc, c'est vraiment ce qui a motivé là, le plus ma décision là, de venir au communautaire. Les personnes handicapées, c'est vraiment une cause magnifique. C'est un milieu qui est très, très valorisant, très stimulant.
Et vous comblez un besoin parce qu'on sait qu'après 21 ans, effectivement, il y a des choses qui arrêtent là, au niveau du réseau. Donc, les gens se retrouvent souvent gros gens comme devant.
Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Donc, moi, j'ai changé. J'ai amené avec moi ma motivation, mon intérêt, puis ma grande foi en l'humanité pour venir travailler au communautaire. Puis, écoutez, je vous dirais que jusqu'ici, là, on n'en a que des bienfaits. Là.
On parle de 28 organismes. C'est combien? Il y a des bénévoles à l'intérieur de ces organisations-là.
Oui,
c'est combien de personnes, approximativement, qui gravitent autour de tout ça?
Oh là là, mettre un chiffre serait très, très difficile. Je vous explique, présentement, comme un petit peu partout au Québec, l'Abitibi-Témiscamingue vit une grosse problématique au niveau du manque de personnel. Donc, c'est sûr que normalement, dans une situation optimale, où tout le monde, tous les postes sont comblés et le nombre de bénévoles là est suffisant, on parlerait peut-être d'une quinzaine de personnes par organisme. Environ. C'est ce qui est arrivé dans le passé, c'est ce qui arrive de temps en temps. Par contre, présentement, c'est certain qu'on a beaucoup moins de gens mobilisés puisque le personnel, autant rémunéré que bénévole, là, se fait assez rare. Mais quand même, il y a plusieurs personnes là, autour des organisations qui viennent de temps en temps. Il y en a qui sont là parfois, il y en a qui sont là régulièrement, il y en a qui quittent, qui reviennent parce que c'est vraiment un milieu où on a de la difficulté à quitter.
Madame Lavallée, quels sont vos grands chantiers pour les prochaines années?
Bien, vous voyez, puisque moi je viens d'arriver, comme j'expliquais, c'est difficile de voir où on en sera dans 2 ans, dans 3 ans. Par contre, pour cette année, c'est certain que à travers, comme on dit, hein, il y a une grosse partie qui est réservée aux besoins spontanés des organismes. À travers tout ça, les gros travaux qu'on a en route, c'est vraiment un dossier présentement là encore au niveau des du répit dépannage, encore au niveau des activités de jour. Par contre, il y a aussi des travaux qui sont faits au niveau du transport, parce que vous savez, ici, en Abitibi-Témiscamingue, la région, elle est quand même vaste.
Oui.
Et quand les personnes ne vivent pas au centre-ville des villes les plus grandes, c'est très difficile pour eux de se déplacer, là, de pouvoir avoir une vie sociale. Donc, là-dessus, on travaille fort cette année. Il y a aussi la mise en place avec un autre organisme avec qui on collabore beaucoup ici, qui est l'Association régionale pour le loisir de personnes handicapées. On travaille aussi à l'organisation d'une journée colloque qui aura lieu, je vous le dis à vous, les gens ne le savent pas encore, le 25 avril 2019. Donc, cette journée-là, là, vraiment, va être basée sur les intérêts, les besoins de nos membres. Puis, on va essayer là, de faire de cette journée-là quelque chose d'enrichissant là, pour qu'ils puissent apprendre, mais dans un climat plus festif. Là.
Maintenant, comment on peut vous joindre s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir un petit peu plus?
Tout à fait. Vous pouvez nous joindre en tout temps par téléphone ici, ben, en tout temps, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30, au 819-762-8956. Vous pouvez aussi me joindre en tout temps par courriel au rafat@commercialcablevision.qc.ca. On a notre page Facebook qu'on vous invite à venir voir, à venir aimer aussi, simplement en tapant Rafat. Puis il y a notre site Internet, le www.rafat.ca, pour avoir vraiment toutes les informations concernant là, le regroupement, les projets, l'émission Valeurs. Puis si vous me permettez, je vous inviterai aussi à consulter la page Facebook de l'Association pour personnes handicapées visuelles de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est vraiment notre organisme avec lequel on travaille beaucoup au niveau des personnes handicapées visuelles.
Et le RAFAT, on l'appelle comment, Mme Lavallée, pour être certain?
R-A-P comme papa, H-A-T comme table. Donc, R-A-P-H-A-T.
Mme Karine Lavallée, directrice générale du regroupement des associations pour personnes handicapées de la belle région de l'Abitibi-Témiscamingue, merci d'être venue à notre émission aujourd'hui.
Un grand merci à vous.
Merci. Bonne chance. Bonne
journée. Au revoir.
Dans nos informations en ce qui concerne ce qui se passe sur la déficience visuelle un petit peu partout sur la planète, eh bien, en l'absence de bruit de moteur, la Jaguar 1 Pace électrique avait besoin d'avertir les non-voyants et autres personnes vulnérables de son approche à faible vitesse. Alors, Jaguar a développé un système d'alerte sonore spécifique pour son premier véhicule électrique. Ça s'appelle l'Audible Vehicle Alert System. Pour raccourcir tout ça, on appelle ça le AVAS, qui répond à toutes les réglementations internationales. Les ingénieurs de Jaguar ont développé un son qui peut être entendu jusqu'à 20 km/h et qui dépasse les 56 décibels exigés par la future loi européenne, la plus stricte du monde pour tous les véhicules électriques à partir de juillet 2019. Le son de la 1Pace a été notamment testé par les membres du Guide Dogs for the Blind, la première association caritative du Royaume-Uni, pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Ces tests marquent également le début d'une relation continue entre les deux organisations. Les ingénieurs de Jaguar ont travaillé durant 4 ans à développer un son qui soit audible mais discret et qui ne s'entende pas dans l'habitacle. Les premiers essais qui s'inspiraient du son d'un vaisseau spatial de science-fiction ont dû être abandonnés parce que les piétons réagissaient à l'approche du véhicule en regardant le ciel. Il entendait un vaisseau spatial, donc en regardant le ciel plutôt que la route. Les différents sons ont été testés dans plusieurs environnements, notamment dans des conditions urbaines, avant d'opter pour la sonorité de la 1Pace. Le son émis par un haut-parleur situé derrière la calandre est audible dans toutes les directions. La tonalité et le volume de l'alerte montent avec la vitesse de la voiture. Alors, un son supplémentaire indique que le véhicule recule. Le système AVAS n'est pas nécessaire à plus grande vitesse car les bruits d'air et des pneumatiques sont suffisants pour prévenir les piétons qu'une voiture zéro émission approche. Vraiment intéressant comme nouvelle. Une autre nouvelle, mais qui nous touche plus particulièrement ici au Québec et particulièrement à Longueuil, c'est que l'entreprise d'économie sociale Accessibilité, un organisme à but non lucratif, ça s'appelle BrailleTab Technologies, tire profit de son expérience depuis le lancement l'an dernier d'une première bibliothèque de partitions de guitare en braille et lance EasyGit, un outil didactique en ligne pour s'initier à la guitare à son rythme. Disponible sur la plateforme web EasyGit.com, ça s'écrit EZGUIT.com. La formation de 10 cours en ligne s'adresse particulièrement aux apprentis guitaristes qui ont des difficultés d'apprentissage, une vision partielle ou une cécité, ou qui souhaitent simplement apprendre à un rythme mieux adapté. C'est en offrant des ateliers afin de faire connaître les partitions en braille, entre autres auprès de l'Institut national canadien des aveugles et la Fondation des aveugles, que le musicien Jean-Pierre Lessard et son équipe en sont venus à un constat. Les partitions en braille et en caractère agrandi sont aussi disponibles. Il y a même un Français non-voyant qui a contacté l'entreprise d'économie sociale afin de savoir s'il était possible de se rendre dans les locaux de BrailleTab pour suivre une semaine intensive de formation à la guitare. Alors, il est venu jusqu'ici avec son chien guide pour apprendre la guitare. La bibliothèque BrailleTab compte maintenant environ une 60aine de chansons et exercices de base disponibles gratuitement sur le web.
Alors, je rappelle l'adresse courriel, c'est ezguit.com et ça se fait ici au Québec. Et en terminant, un sondage Pfizer A plus A de juillet 2018 a déterminé que 62 % des personnes âgées de plus de 55 ans ont peur de vieillir. Ce n'est pas mon cas. Leur plus grosse inquiétude, la dégénérescence des facultés cognitives. Cette étude révèle également que pour vieillir en bonne santé, 66 % des personnes interrogées comptent sur leur médecin. Plus de 60 % des patients âgés de plus de 60 ans sont déficients visuels. La cataracte, qui apparaît le plus souvent après 60 ans, est impliquée dans un quart des causes de malvoyance. Pfizer a souhaité s'associer à Handicap Zéro, qui est une association qui œuvre depuis plus de 30 ans pour l'autonomie et pour le droit à l'information des personnes aveugles et malvoyantes en France, afin que les personnes qui rencontrent ces difficultés aient accès aux mêmes informations que les personnes voyantes. Voilà pour nos petites nouvelles de cette semaine.
Tes pas résonnent seuls dans ta nuit, ne sachant trouver le coupable, encore une fois incapable de te savoir fort et aimable, face au bonheur qui se présente, face à ces joies qui pour toi chantent, encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit,
encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Tu ne sais jamais qui blâmer, toi l'autre ou la simple équation de vos deux personnalités, de toutes ces blessures sulfuriques. Tu gardes toujours quelques tics, quelques beaux souvenirs pathétiques. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Le ciel tout bleu, un vertige immense t'envahit. Tu penses à quand tu seras vieux, les oiseaux semblent bien petits. Tu te demandes où est leur nid, qu'importe puisqu'ils perdront la vie. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Encore un autre cœur détruit.
Dieu le Père te faisait roi des gens heureux, tu marcherais vers la lumière, tu te brûlerais avec le feu. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Regard sur le monde vous revient après cette pause.
Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. La place des grands hommes.
j'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mort a une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous, et toi Marco, venait simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi.
Vous êtes toujours à Canal M, Regard sur le monde, et nous sommes en compagnie de M. Stéphane Lambert, qui est président du conseil d'administration de la Fondation de l'école Jacques Ouellette de Longueuil. Mais M. Lambert, bonjour.
Bonsoir.
Faut dire aux gens qu'on enregistre l'émission toujours à l'avance et qu'au moment où notre émission sera diffusée, vous allez être probablement dans les airs parce que vous allez vivre une expérience extraordinaire. Racontez-nous.
Oui, en fait, pour la deuxième année consécutive, je vais accompagner un groupe de 4 enfants handicapés visuels qui partent avec l'organisme caritatif Voyage de rêve. C'est un, appelons ça un 24 heures à Walt Disney. On décolle le matin à 6 heures de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau et on va à Walt Disney en Floride. Et à 21h30, aux alentours de, on repart de Walt Disney pour revenir à Montréal avec les enfants. C'est une avionalisée entièrement dédiée à des enfants à besoins particuliers. Là, on parle de déficience physique, mentale, et c'est pour nommer que ceux-ci, là, mais ça va dans tous les sens.
Et vous l'avez déjà fait?
Oui, l'an passé, je l'ai fait comme accompagnateur et ma fille, qui est handicapée visuelle aussi, l'a vécu en tant qu'enfant il y a quelques années. Donc, j'ai vraiment vécu les deux sensations. Le parent qui laisse partir son enfant seul, parce que nous, on ne va pas avec, ça part avec une équipe, puis on laisse notre enfant à bord de l'avion entre les mains de ces merveilleux gens-là et qui s'occupent d'eux là, pour la journée à Walt Disney, qui leur font vivre une journée vraiment incroyable.
Quand vous l'avez fait l'an dernier, qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Qu'est-ce qui vous a...
C'est de voir à quel point, que l'organisme est tellement bien organisé, et de voir à quel point les enfants sont émerveillés, peu importe la déficience, là, nous, c'est la déficience visuelle, fait que c'est plus auditif, les sensations, mais le feeling, la, permettez-moi l'expression, la vibe qu'il y a à Walt Disney, là, les enfants le ressentent et ils ressortent de là émerveillés. Là.
Quand vous revenez à la maison, vous ne devez pas vous coucher tout de suite?
Non, il y a un beau rush d'adrénaline, en effet.
On va parler, bien entendu, de l'école Jacques Ouellet de Longueuil ainsi que de la Fondation. Alors, M. Lambert, qu'est-ce que c'est, justement, que l'école Jacques Ouellet?
En fait, l'école Jacques Ouellet, c'est le seul établissement scolaire au Québec qui est spécialisé en déficience visuelle, qui est entièrement spécialisé en déficience visuelle. Elle existe depuis 1975 et apportait le nom d'école Nazareth Louis Braille auparavant. En 88, elle a obtenu le mandat suprarégional, donc un mandat de développement, recherche, enseignement et formation d'intervenants en déficience visuelle. Puis il offre aussi un service de soutien à l'intégration pour les différents élèves à travers le Québec. Là.
Et on parle de quel niveau de scolaire?
C'est autant au niveau préscolaire, primaire que secondaire. Et on a un volet aussi professionnel, semi-professionnel là, également.
Les élèves qui arrivent à cette école-là, est-ce qu'ils sont recommandés d'une façon particulière ou...
Oui, en fait, c'est pas un choix école qu'on fait d'aller à Jacques Ouellet. Après ma barre, il faut avoir une déficience visuelle, évidemment, mais c'est plus une recommandation de l'école de quartier qui va dire « OK, nous, on conseille d'aller à Jacques Ouellet » ou « On recommande d'aller à Jacques Ouellet pour parfaire sa technique, soit en braille, en agrandi, avec le différents matériels d'adaptation, en fait. »
La Fondation, maintenant. La Fondation Jacques Ouellet. Quelle est la mission de la Fondation?
En fait, la mission est très simple, c'est de soutenir l'école dans ses différents projets. Quand on parle de projets, ça peut aller du sportif, du culturel, du musical. C'est vraiment vaste, là, tous les projets qu'une école peut soumettre, peut voir avec un enfant. On va les soutenir dans le développement de ces projets-là.
Donc, vous êtes président de la Fondation depuis 3 ans,
exact.
En fait. Et c'est une association qui a déjà existé, qui a eu un petit point mort, comme on dit, et puis là, vous l'avez fait renaître de ses cendres.
Oui, exactement. La Fondation existe depuis au-delà de 20 ans déjà. Malheureusement, des départs du conseil d'administration ont fait que c'est tombé en dormance quelques années. On m'a demandé, dans mon implication auprès de l'école, parce que j'ai siégé sur le conseil d'établissement de l'école aussi, on m'a demandé si je voulais donner un coup de main à défricher la fondation. Et de fil en aiguille, j'ai poussé la note et je me suis allié avec d'autres gens qui on a finalement formé un nouveau conseil d'administration et on a reparti ça, on appelle notre version
3.0. 3.0. Bien.
Qu'est-ce qui vous a stimulé à repartir cette fondation?
Ben, d'avoir un enfant handicapé visuel, à la base, ça motive une personne, mais j'ai toujours été, depuis mon jeune temps, depuis 89, que je suis impliqué au niveau communautaire. Là, j'ai été entraîneur de football une dizaine d'années. J'ai été aussi coordonnateur service à la collectivité de l'Ambulance Saint-Jean. Quand on a eu notre fille Chloé, en 2000. Dans les années fin 2000, je me suis impliqué au sein de l'ACPEV, qui est l'Association québécoise de parents d'enfants handicapés visuels. Sa mère et moi, on s'est impliqués sur le conseil d'administration. Je suis devenu trésorier. Ensuite, est rentré à l'école. Fait que je me suis impliqué au niveau du conseil d'établissement. Et me voici maintenant président. J'en ai lâché quelques-unes implications, rassurez-vous, sinon je ne serais plus avec ma conjointe aujourd'hui.
Vous avez, votre fille est donc à Jacques Ouellet depuis la maternelle, finalement?
Maternelle 4 ans, oui.
Et est-ce que qu'est-ce que vous constatez après toutes ces années?
La maturité en tant qu'être humain qu'elle a acquis et la confiance en soi. On ne se le cachera pas, quand tu perds un sens... tu es un petit peu plus craintif, un peu plus réticent à faire certaines choses. Et notre fille souffre de ce, de ce manque d'estime de soi. Jacques Ouellet lui a apporté beaucoup. C'est sûr qu'en tant que parent, on fait notre bout de chemin, mais le personnel enseignant de l'école, et ce sont des perles, chacun à leur façon. Ils savent comment guider l'enfant, comment les faire cheminer à travers la déficience visuelle, comment passer au-delà de leur handicap, et tout en leur amenant le côté académique, le développement du braille. Notre fille est au braille intégral, donc le développement au braille et tout ça, là, vraiment, c'est tout ce volet-là. Là, qui est...
Monsieur Lambert, bougez pas, on revient avec vous après cette pièce musicale.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Nous sommes toujours en compagnie de M. Stéphane Lambert, président du conseil d'administration de la Fondation de l'école Jacques Ouellet de Longueuil.
M. Lambert, quelles sont les réalisations de la Fondation au cours des années?
Écoutez, les réalisations de la Fondation vont vraiment dans tous les sens. Là. On parle de la mise sur pied depuis l'an passé, d'une bourse spéciale pour les enfants. On en a une au primaire, au secondaire, et une pour le volet CFR aussi. On l'a appelé le héros silencieux, une personne qui se démarque là, par son positivisme et tout son apport, mais de second plan. C'est pas lui qui est à la tête du projet, mais il fait en sorte...
Un héros silencieux,
c'est un bon
silencieux.
C'est vraiment ça, vraiment. Ça dit ce que ça dit.
C'est magnifique.
Puis c'est ça, voilà. On parle d'adaptation de livres en braille, intégral et en agrandi, évidemment, pour la seule bibliothèque au Québec à posséder cette richesse-là pour la déficience visuelle. On parle de l'adaptation de la cour d'école pour permettre les élèves de faire du vélo de manière autonome. Ils ont scarifié la cour d'école, fait que les enfants sur leur vélo sentent la scarification dans l'asphalte et sont capables de suivre le trajet.
Quelle bonne idée!
Wow. Conjointement avec Canadian Tire ou la Fondation du Canadien de Montréal. Là, lequel des deux, ça m'échappe, mais je sais qu'ils ont participé les deux là, à ce projet-là. L'achat d'instruments de musique, les cours de musique avec des professionnels, des subventions pour des voyages culturels, rajeunissement du préau, qui est la section de repos, de socialisation de l'école, on l'appelle le préau. Participation aux Olympiades du CFR, au Grand Défi Pierre Lavoie en vélo tandem, différents voyages culturels encore, diverses activités là, d'archéologie culturelle, sportive, artistique, et j'en passe, là, c'est vraiment éparpillé là, dans toutes les sphères. Là.
C'est vraiment incroyable. Alors, pour ramasser tous vos sous, en fait, j'imagine que la Fondation organise différentes activités.
Oui, on a commencé ça en grande cette année. Là, c'est quand même notre deuxième année d'exploitation. Donc, on a mis en branle tout ça. On a commencé par un 5,5 à 7,5. En déficience visuelle, on ne fait pas les choses à moitié, même si on appelle ça 5,5, 7,5, parce qu'on est différent des autres. Voilà. On va faire aussi une vente débarras au printemps, plutôt, parce qu'on est déjà à l'automne. On va faire la vente d'articles conjointement avec différents partenaires. Je pense au Club Lyon, au Club Optimiste et tout ça. On a aussi des ventes d'articles que nos élèves font en art plastique. On parle d'épinglettes avec du braille dessus, de style domino. On parle de têtes de crayon, là, où ils confectionnent des têtes de coq qu'on met sur le dessus du crayon, où ce qu'elle efface.
Mais comment ça se passe concrètement?
C'est vraiment mené de main de maître par notre enseignante en art plastique là, qui guide nos élèves à développer leur sens de artistique, en fait, là, qui font ça. Là. Mais c'est vraiment épatant de voir tout ça.
Mais je comprends.
Oui, oui.
Quels sont les grands défis? Bon, vous avez repris le flambeau, si on peut s'exprimer ainsi, il y a 3 ans. C'est quoi vos grands défis?
Le plus grand défi, je vous dirais, c'est de trouver les fonds nécessaires pour enrichir notre bibliothèque. Parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, on est la seule bibliothèque québécoise ayant des livres en braille intégral et en agrandi. Il y a la grande bibliothèque qui ont du braille abrégé, mais au niveau du braille intégral, il y a l'école Jacques-Ouellette et c'est tout, quelques bibliothèques à travers le Québec.
Quand on parle de braille intégral, ce sont de gros livres.
Oui. Oui, oui. Si on parle d'un tome à Harry Potter, là, le premier tome d'Harry Potter, ben ça va prendre une tablette au grand complet dans notre bibliothèque. Là. Si on parle, mettons, d'une quinzaine de livres juste en braille intégral, là, on peut aller chercher, faut aller chercher des fonds pour environ 20 000 $ pour pouvoir adapter ça. Ça coûte excessivement cher et c'est le grand défi qu'on a parce que la demande est forte. Et on fournit pas, on n'a pas un rythme qui permet de subvenir aux besoins criants là, de ces livres-là. Donc, c'est notre gros défi pour les prochaines années à court terme, là, entre autres.
Donc, des activités de financement, un conseil d'administration mobilisé. Si vous aviez à faire le bilan des 3 dernières années, qu'est-ce que vous dites?
Un merveilleux conseil d'administration. Sont très motivés, très motivants. Ils y croient et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est fiers de dire que la Fondation est enfin repartie. On la porte à bout de bras, on en est fiers. Puis c'est rien, la Fondation qu'on voit aujourd'hui. Je vous redonne rendez-vous dans 1 an ou 2, puis on va être rendu à un niveau supérieur. Oui, oui, vraiment.
Est-ce que vous avez besoin de bénévoles actuellement? S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, est-ce que c'est possible?
C'est certain. On a toujours besoin de bras, comme on dit, que ce soit pour un événement ou s'impliquer au sein du conseil d'administration. Il reste de la place. Donc, les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. On a tous les moyens nécessaires là, pour être rejoints.
Dans la préparation de l'entrevue, on parlait de diplomation et vous me disiez que c'était difficile de savoir si les jeunes terminent leur secondaire 5 finalement à Jacques-Ouellette parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne et ce serait intéressant d'expliquer aux gens que souvent Jacques-Ouellette, c'est un passage pour un enfant qui retourne éventuellement dans le régulier.
Oui, il y a des enfants comme probablement notre fille qui va faire tout son scolaire, tout son académique à Jacques-Ouellette, mais il y en a d'autres, c'est par besoin criant de redressement, que ce soit en braille ou pour apprendre les différents systèmes d'adaptation pour la déficience visuelle parce qu'ils sont en train de perdre la vue ou il est arrivé un accident et là, la vue n'est plus ce qu'elle était. Donc, souvent, ça va être des élèves qui sont comme en stage pour 1 an ou 2, ensuite ils retournent en intégration ou qui ont débuté à Jacques-Ouellette, qui sont rendus autonomes, qui sont simplement intégrés. On a des enseignants, des personnes qualifiées qui forment les gens dans les différentes commissions scolaires au niveau de la déficience visuelle, parce qu'il y a des gens déjà intégrés qui ont besoin de ressources, fait qu'ils passeront probablement jamais à Jacques Ouellette, mais par la bande, on leur donne un coup de main via nos enseignants conseils, comme on les appelait il y a quelques temps. Là.
C'est combien d'élèves à Jacques Ouellette?
À Jacques Ouellette, en moyenne, on parle de 75 élèves là, en moyenne. Ça a déjà tourné autour de 90, maintenant on est autour de 65.
Le sentiment d'appartenance, c'est une grande famille, hein? En fait.
Oui, c'est très serré, autant au niveau du personnel enseignant que les élèves, les membres, les personnels de soutien, les parents aussi sont impliqués, puis c'est vraiment une belle ambiance.
Vous devez être fier de votre fille.
Très fier de notre fille, en effet.
Alors, s'il y a des gens qui souhaitent faire des dons ou enfin vous appuyer à la Fondation Jacques Ouellette, on vous rejoint comment?
Bien, nos bureaux sont situés dans l'école Jacques Ouellette à Longueuil, sur la rue Nobert, au 1240 rue Nobert. Il y a notre numéro de téléphone, le 450-670-2951, le poste 3862. Notre site Internet, le www.fejo.ca et notre page Facebook, évidemment, vous cherchez Fondation de l'école Jacques Ouellette, vous allez nous trouver, on est les seuls dans le domaine.
Monsieur Lambert, merci infiniment d'être venu à notre micro, vous faites un travail exceptionnel vraiment auprès de tous ces gens et on invite nos auditeurs à vous encourager fortement, allez sur le site Internet. On va redonner l'adresse du site Internet, M. Lambert, s'il vous plaît.
Oui, le www.fejo.ca. Et comme on dit, faites le don pour voir.
M. Lambert, merci infiniment d'être venu à notre émission. Et bonne chance et longue vie.
Merci beaucoup.
Passerie des plaines d'histoires. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort on va s'aimer encore. Nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort on va s'aimer encore. pas complètement démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenues de la poussière d'étoiles, on va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore au bout du doute, au bout de la. Au-delà de la mort, on va s'aimer.
Et voilà, c'était notre édition de Regards sur le monde. On vous dit à la semaine prochaine. Demeurez à l'écoute de Canal M. À bientôt.